7h18. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
Ton dossier préféré, David City. Le 14 juin se joue l'avenir de la compagnie.
Mais Paul, c'est pas mon préféré, c'est le dossier qui fait l'actualité parce que les résultats sont poches, tu comprends? Et le vote n'infuse pas. Donc, évidemment, on a une guerre entre un PDG, Joe Silver, et un ancien, mais le gestionnaire d'un fonds qui investit beaucoup, c'est Herschel Segal, qui lui a 87 ans. Il veut revirer le conseil d'administration à l'envers, mais quand t'as 87 ans, on s'entend que les actionnaires ont un peu peur. Ta fin de durée de vie utile est plus proche. Donc, au niveau du bras de fer, on a souvent plus confiance à quelqu'un qui va être là pour longtemps. Il y a une incertitude en bourse, je t'en parle souvent, là, il y a un dossier dans la presse ce matin. Pourquoi? Parce que le vote du 14 juin, il est primordial. Écoute, t'as une entreprise qui change de président souvent. T'as une entreprise qui a pas de stabilité. T'as une entreprise qui fait des pertes. T'as une entreprise où les petits actionnaires se retrouvent devant un combat public entre des actionnaires ou un actionnaire de force et l'administration actuelle. Et on sait très bien que si l'actionnaire réussit à faire changer le conseil d'administration, la direction actuelle va lever aussi. Donc, t'imagines-tu au niveau de l'action? Parce que l'investisseur aujourd'hui n'est plus comme dans le temps. À l'époque, tu voyais une compagnie, t'appelais ton courtier, puis tu disais hey, « je veux vendre mes actions ». Il disait « attends une minute, là, on tempère un peu ». Maintenant, avec Internet, avec le courtage à escompte, avec la rapidité de l'information, dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, il y a un effet Pygmalion. C'est-à-dire que il y a une prophétie d'autoréalisation. L'actionnaire se dit « les gens vont avoir peur, les gens vont vendre, donc je vais vendre avant que ça baisse ». Donc, il y a beaucoup de volatilité en bourse. Et ce genre de vote-là, ben ça me fait penser un peu à la température. Tu sais, mettons, je me lève ce matin, puis je sais pas, je regarde dehors, puis il fait 4 degrés. Et là, je me dis, tiens, je vais mettre mon manteau d'hiver pour la saison. Mais c'est un peu ça. Tu sais, quand tu regardes les actions au jour le jour, c'est comme regarder la température à la minute. C'est pas représentatif de la saison dans laquelle tu te trouves. Et là, évidemment, on fait des pertes, 28 millions de pertes l'an passé. Et ce qui est impressionnant, c'est que les frais d'administration et les frais d'opération donc sont plus grands que la marge brute. En somme, on perd de l'argent avant même d'avoir payé les frais de financement. Impôts, il n'y en a pas, évidemment, mais tous les autres frais. Donc, c'est vraiment une entreprise dont le modèle...
Mais c'est quoi les scénarios, là? C'est-à-dire qu'on fasse des coupures massives, qu'on change la direction?
Changement de direction, en fait, il y a une direction qui est là depuis pas assez longtemps pour avoir un plan. Tu sais, on a une possibilité de changer le conseil d'administration et se dire, est-ce qu'on garde plus de 200 succursales? T'sais, est-ce qu'on continue à être un modèle qui vend du thé comme si c'était des bijoux? Dans des centres commerciaux, des boutiques spécialisées dans le thé pour un seul produit, avec un produit plus cher que les compétiteurs, mais pas nécessairement avec une différenciation assez importante. C'est comme un concept d'huile d'olive. Il y a des fois des micro-boutiques d'huile d'olive, ça survit à peine, t'sais. Mais le thé, c'est un peu la même chose. C'est un produit de consommation comme d'autres qu'on a voulu élever au rang de supérieur et qu'on n'a pas évalué le rendement en capacité d'attirer un marché. Aux États-Unis, Starbucks a dit « on sort de là, Tivana, c'est pas une bonne idée, on perd de l'argent, on se retire ». Tandis que David City est rentré là avec une offre qui était semblable à celle canadienne, mais sans comprendre que les Américains ne boivent pas de la même façon, sans voir que le consommateur n'est pas prêt à payer, et sans voir qu'il y a un illogisme. Puis regarde juste au niveau des PDG. Tu sais, prends la Banque Laurentienne. Quand on a changé de PDG de Ray McManus à Régent Robitaille, on l'a annoncé, on a sélectionné un dauphin, on a laissé le temps au marché de s'habituer à la nouvelle. Même chose avec François Desjardins. Il y a eu une passation des pouvoirs sur plusieurs mois. Donc, tout ça n'existe pas chez David City. Donc, il y a cette espèce de signal-là qu'on gère une compagnie publique sans vraiment savoir où on s'en va et qu'il y a une guerre entre des intérêts divergents.
Faut-il parler du montant du régime d'épargne études à ses enfants?
C'est une bonne question parce que c'est une sous-question d'un sondage de TD de la semaine passée. Puis je te pose la question, tu sais, si tu as 30-40 000 qui attend ton enfant à 18 ans,
ouais.
19 ans, est-ce qu'on lui dit, hey, à 14 ans, quand pour tes études, j'ai 30-40 000? Ça peut influencer sa capacité de travailler, ou sa volonté de travailler, ou sa volonté de te trouver cheap comme parent. T'sais. Donc, tu te dis, OK, attends une minute, mais qu'est-ce que je fais? Donc, il y a premièrement, sachons que dans le régime enregistré d'épargne études, il y a la portion capitale qui appartient à celui qui a contribué, donc souvent aux parents. Donc, votre enfant, si vous lui dites qu'il y a 30 000 là-dedans, sache que le capital m'appartient. Ce qui t'appartient à toi, ce sont les intérêts et le rendement, donc, et la subvention. Mais le capital m'appartient. Un deuxième point intéressant, c'est de se dire, OK, comment je réussis à parler d'argent à mon enfant à l'adolescence? et l'amener à accumuler de l'argent pour ses études, même si j'en ai mis moi-même. Ben, il y a une fixation de taux d'épargne, même dans l'argent de poche. Quelqu'un qui me donne ce truc-là, Paul, on en fait ce qu'on veut.
Oui.
Mais on me dit, moi, j'augmente l'argent de poche de mon enfant, mais chaque fois que j'augmente l'argent de poche de mon enfant, je lui demande un taux d'épargne supplémentaire. Par exemple, si je lui donne 10 $ par semaine, puis je passe à 15, ben, sur le 5 $ d'augmentation, j'y demande d'épargner 3 $ de plus par semaine. Et là, ça crée une dynamique de confiance et tu lui fixes un objectif en fin d'année et s'il atteint son objectif, il peut avoir un bonus, tu comprends? Donc, c'est une espèce de gestion quinquennale sur 5 ans de la pensée financière de ton enfant. Bon, quinquennale sur 5 ans, c'est un pléonasme, mais juste pour te dire qu'il y a des stratégies comme ça. Et là, c'est ceux qui me disent « Oui, mais comment je vais dire à mon enfant que j'ai mis de l'argent de côté pour lui pour ses études, mais qu'en même temps, pas lui dire? » Ben justement, tu lui dis « Papa et maman vont t'aider à la hauteur de leurs moyens quand tu seras rendu à l'université. » Puis là, s'il dit « Ben ça veut dire combien ça? » Ben ça veut dire à la hauteur de nos moyens, de ce qu'on pourra t'aider selon nos moyens. Donc, tu donnes une information.
Mais pas détaillé.
Pas tout, tu sais. Tu lui fais un crack, il va rouler en tercelle usagée, mais il y a une Lamborghini qui l'attend.
Salut.
Salut.
J'aime beaucoup la notion de faire un prélèvement automatique sur l'argent de poche. Je trouve ça agréable. 7h25.